France Musique. France Musique. Grand large, Go West. Laurent Vallière.
Aujourd'hui, 7e épisode, Minneapolis, la ville du prince. Pour aller de Chicago à Minneapolis, il faut emprunter la route Interstate 90, puis celle numéro 94. 650 km, on monte encore plus au nord. On traverse l'Illinois, le Wisconsin et ses fameux fromages cheddar qui n'ont rien à envier aux fromages affinés français. Et on arrive dans l'état du Minnesota, essentiellement rural où se niche Minneapolis. Ferdé Groffet a composé une suite autour du Mississippi, où il dépeint, entre autres, cet état américain. Père des eaux, Father of Waters, extrait de la suite Mississippi composée par Ferdé Groffet, interprété par l'orchestre symphonique de Bournemouth, dirigé par William Stromberg. Minneapolis, c'est la principale ville de cet état du Minnesota. 429 000 habitants, 3 millions et demi si on compte sa ville jumelle, Saint-Paul et toute l'agglomération. Une ville constituée avec à la fois une population allemande et scandinave. D'ailleurs, même si pour nous, Minneapolis, c'est d'abord la musique de Prince, au départ, c'est plus une musique folklorique norvégienne. Une danse en habits rouges et noirs qu'on appelle la Laekaring. Yale et Ma Sosildi, un chœur mixte norvégien, une chanson traditionnelle, avec le chef de chœur Grete Pedersen à la tête du chœur des solistes norvégiens. Parce qu'à Minneapolis, les premiers arrivants viennent de Norvège, de Suède, d'Allemagne. Ils sont aussi américains, arrivés du Nord-Est au milieu du 19e siècle. La terre ne coûte rien, il y a beaucoup de travail sur les rives du Mississippi. Les colons prennent la place des Indiens natifs qu'ils délogent. À la fin du 19e siècle, on compte plus de 200 000 habitants à Minneapolis. La musique est importante et les genres se mélangent. La musique folklorique, le ragtime, la musique des spectacles américains, les minstrel shows et les cuivres. Et c'est à ce moment-là que la polka fait son apparition. Une combinaison de différentes traditions folkloriques européennes, parce que polka en tchèque signifie half step, demi-pied. C'est une danse qui a été créée en Europe centrale, en Europe de l'Est, dans les années 20, qui s'est propagée avec l'immigration aux États-Unis. On appela même cette zone constituée du Nord-Est et du Midwest américain la ceinture de la polka. Les nouveaux Américains adoraient l'énergie de cette danse, sa vitalité, qui est connectée à l'Europe qu'ils aimaient. Thank you. Une polka intitulée The Glen Side. C'était interprété par Maury Minogue au violon, Tag Kearney à l'accordéon, Tom Kussen au banjo et Jimmy Hogan au piano. La musique fleurit à Minneapolis. Au début du XXe siècle, tous les élèves à l'école doivent l'apprendre. Le chant, les instruments, la lecture. Parce que le maire souhaite augmenter la participation et l'appréciation de la musique et fournir aux classes populaires d'immigrants et leurs enfants des outils pour lire, jouer et écrire de la musique. Pour la musique classique, le premier orchestre naît en 1903. À sa tête, un grec, Dimitri Mitropoulos, né dans un petit village grec, un grand-père prêtre, deux oncles qui étaient des moines, lui portait un grand crucifix près de son cœur, chauve, il faisait penser à un moine. En 1936, Serge Koussevitzky l'avait invité à venir diriger l'orchestre de Boston, il y fait grande impression, et il est nommé en 1937 le chef d'orchestre de l'Orchestre Philharmonique de Minneapolis. Il va y rester 12 ans. L'orchestre est fondé par Émile Oberfeur en association avec un entrepreneur de bois de charpente et Mitropoulos va transformer cet orchestre en laboratoire contemporain. Il va donner des œuvres de Roger Session, la musique dodécaphonique d'Ernst Krenek, la musique de Mahler, de Vaughan Williams ou de Darius Milhaud. Il déclarait: à quoi ça sert d'apprécier les inventions modernes et pratiques, les films, les émissions de radio, et de rejeter les sons modernes? Est-ce que vous pourriez vous intéresser à ces travaux contemporains? Je veux dire, pourriez-vous ne pas accepter le défi d'écouter d'abord une œuvre, puis décider ce que vous appréciez et ce que vous rejetez? Parce que, terminait Dimitri Mitropoulos, une nouvelle œuvre, l'écouter, c'est une expérience, et comme dans la science, il y a parfois des satisfactions. Il reste quelques enregistrements d'époque dirigés par Mitropoulos où on sent sa touche quasi expressionniste avec des accents, une grande énergie. Le voici à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Vienne dans la symphonie numéro 1 en si bémol majeur de Robert Schumann.
Thank you.
Dimitri Mitropoulos à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Vienne et le deuxième mouvement, Larghetto, de la symphonie numéro 1 en si bémol majeur de Robert Schumann.
France Musique, Grand Large, Go West, Laurent Vallière.
À côté de Minneapolis réside la ville autrefois ennemie et aujourd'hui sœur, Saint-Paul, surnommée la ville allemande avec une importante immigration germanique. On sent son influence notamment sur l'architecture de la vieille ville. La ville est dotée d'industries alimentaires, les brasseries, les minoteries, le travail de bois, de papier. Les matières premières sont acheminées en effet par le Mississippi. Elle compte le fabuleux Saint-Paul Chamber Orchestra, fondé en 1959, un des rares orchestres de chambre à plein temps aux États-Unis, avec un répertoire très vaste, du baroque à la musique contemporaine. Une pavane de John Doland, extraite de son Lacrimae Anticae Novae, un quintet issu de l'orchestre de chambre de Saint-Paul avec au violon Patricia Kopaczynskaya. Minneapolis est une autre ville creuset musicale aux États-Unis. Parce que la population noire n'est pas en grand nombre à la création de cette ville. En 1930, elle ne représente que 1% de la population, ce qui ne va pas diminuer l'impact de la musique afro-américaine sur la scène musicale. Bon, Minneapolis est tristement célèbre aujourd'hui pour l'assassinat de George Floyd, l'été 2020, par un policier. Mais à l'époque, la population noire était une minorité. Alors que les blancs du Minnesota jouaient de la polka, la musique noire arrive et les musiciens voient la ville comme un endroit où ils pourraient vivre et prospérer. Parmi eux, Lester Bress Young, le saxophoniste ténor, et le pianiste jazz James Samuel Cornbread Harris. Lester Young est né à Woodville, dans l'état du Mississippi, en 1909. Il est l'aîné de trois enfants de Willis Andy Young et de Lizetta Young. Il est plongé dès son enfance dans la musique à travers son père, qui dirige un orchestre de musique scénique, et son frère, batteur. Avec plusieurs autres parents, tous musiciens professionnels, ils forment un groupe familial de minstrel show qui tourne dans le circuit du vaudeville à travers les États-Unis. Lorsqu'il est enfant, sa famille déménage à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, puis à Minneapolis. Son père lui enseigne la trompette, le violon, la batterie, en plus du saxophone alto, afin de lui permettre de se produire avec le groupe familial. Mais il va quitter ce groupe après une dispute avec son père en 1927. Et puis, en 1928, il se consacre définitivement au saxophone ténor. Il va développer un style personnel, doux et aérien. Lester Young, Lipster Lips In de Count Basie. À Minneapolis, un groupe vocal apparaît également, les Andrew Sisters. Les trois sœurs y sont nées. Elles deviennent célèbres à la fin des années 30, durant l'apogée du swing. Patty, la blonde mezzo-soprano, Maxine, la brunette soprano, et Laverne, la rousse contralto, qui chantait en harmonie serrée. Le trio enregistre plus de 600 chansons et vend 90 millions de disques. Elles étaient les filles d'un couple improbable, Peter Andreos émigré grec qui voit son nom de famille transformé en Andrews par les services d'immigration américains et qui avait loué une chambre chez une famille norvégienne. Il épouse la fille du propriétaire et lui explique qu'il veut former une famille géante. Quand elles étaient petites, les trois filles, Laverne, Maxine et Patricia, imitaient leur groupe préféré, les Boswell Sisters. Elle gagne un concours au Orpheum Theater de Minneapolis et intègre une troupe de vaudeville qui tourne. Après 6 ans, elle devient célèbre en passant dans une émission intitulée Saturday Night Swing Club.
Above, you make my sad heart jump with joy. And when you're near, I just can't sit still a minute. I'm so, oh Johnny, please tell me, dear, what makes me love you so? You're not handsome, it's true, but when I look at you, I just, oh Johnny, oh, da 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 da. All the girls are crazy about a certain little lad. Although he's very, very bad, he could be oh so good when he wanted to. Bad or good, he understood about love and other things. For every girl in town followed him around just to hold his hand and sing.
Oh Johnny,
oh Johnny, how you can love.
Oh Johnny,
heaven up above, way above, you make my sad heart jump with joy. And when you're near, I just can't sit still another minute.
Oh Johnny,
please tell me, dear, what makes me love you so? You're not handsome, it is true, but when I look at you, I just, oh Johnny, my.
Johnny, oh Johnny, oh, the Andrews Sisters.
France Musique. Grand large, go west. Laurent Vallière.
Bob Dylan aussi naît dans l'état du Minnesota, à Duluth, au nord de la ville. En septembre 1959, âgé de 18 ans, Robert Zimmerman, son vrai nom, s'inscrit à l'université du Minnesota pour y suivre des cours de musicologie. Il s'installe à Dinkyton, le quartier étudiant dans la banlieue de Minneapolis, un repère de drogués, d'artistes influencés par le mouvement beat, le centre de la scène musicale folk. Le quartier était animé d'une énergie juvénile, d'une exploration créative et d'un rejet du statu quo. Dylan vit dans ce quartier, 327 14e Avenue. Il est peu assidu aux cours, qu'il ne suit que quelques mois, et il découvre le folk. Des chansons, dit-il, contient toujours de quelqu'un. Il joue occasionnellement dans des cafés folk comme The Purple Onion pour 2 ou 3 $. D'ailleurs, c'est juste avant de jouer à The Scholar, un autre café du quartier, qu'il décide de changer de nom. À ses débuts, il se produit souvent à Dinkyton. Il développe ses compétences en un folkier indépendant de Minneapolis et ça va inspirer Dylan, comme il l'écrit dans son autobiographie Les Chroniques, à échanger sa guitare électrique contre une guitare acoustique. Il commence à explorer les profondeurs de la musique roots, à la fois nouvelle et ancienne. Un autre musicien l'influence, Spider John Kerner, un musicien folk, qui raconte en l'an 2000 au Miami News Times « On était tous maladroits, vous savez. Nous étions des penseurs, des buveurs, des artistes, des joueurs. Dylan était l'un d'entre nous, mais c'était un autre gars.
I am a man of constant sorrow. I've seen trouble all my days. I'll say goodbye to Colorado, where I was born and partly raised. Your mother says I'm a stranger, my face you'll never see no more. But there's one promise, darling, I'll see you on God's golden shore. Open world, I'm about to ramble through ice and snow, sleet and rain. I'm about to ride that morning railroad. Perhaps I'll die on that train. That I started from. If I'd known how bad you treat me, honey, I never would have come.
Bob Dylan, Man of Constant Sorrow. Minneapolis va développer un son particulier qui va particulièrement plaire au grand public. Et la raison est simple, ceux qui créent ce nouveau son sont noirs. Mais comme la population noire est petite, eh bien les musiciens noirs, qui veulent gagner leur vie, jouent le plus possible devant un public blanc. Et ils apprennent à les ménager, car le public blanc à l'époque préfère la musique classique, les standards de jazz, la polka, la pop musique. Alors, ces musiciens vont développer une large palette musicale. Ils vont infuser de nouvelles sonorités, le jazz, le blues, le rhythm and blues. Exemple, Herman Jones, la star du funk de Twin Cities. C'est comme ça qu'on appelle cet assemblement de deux villes, Minneapolis et Saint-Paul. Batteur, chanteur, son style mélange le son de Motown et une exploration du rhythm and blues, du funk, de la soul et du jazz. Herman Jones grandit dans une maison pleine de chants et de danse. Ses parents ne sont pas musiciens professionnels, mais ils mettent l'accent sur la musique. La maison d'enfance de Jones est rarement silencieuse. On y entend Tina Turner, B.B. King, Bobby Blues Band et d'autres stars du R&B. Et Jones mentionne ses premières années dans le quartier de Saint-Paul's, Rondeau, comme l'inspiration de sa carrière. C'était juste des moments merveilleux. Vous pouviez sortir simplement de la maison et descendre dans la rue, écouter les matinées du dimanche et tout le groupe de musiciens. Il fait partie de musiciens qui ont été les pionniers du son de Minneapolis. Un style qui a ajouté des éléments de pop, de new wave, de synthé à la musique funk traditionnelle. Le genre a été ensuite popularisé par Prince, que Herman Jones appelle un génie musical. I Love You, Herman Jones, précurseur du son de Minneapolis. La soul, funk, c'est ça le son de Minneapolis, avec un autre groupe de chant, les Valdons, qui comprenaient certains des musiciens de R&B les plus en vue des Twin Cities dans les années 60 et 70. Les Valdons, All Day Long. Et puis bien sûr, celui qui fera la fusion et est devenu le symbole de Minneapolis, c'est Roger Nelson, alias Prince. Il naît à Minneapolis le 7 juin 1958. Sa génération va suivre le mouvement. Dans les années 70, ado, la musique blanche continue de dominer. Lui apprend la musique noire, le funk, la soul, le R&B. À l'époque, Minneapolis ne comptait qu'une seule station de radio noire. Alors il écoute aussi les artistes rock et folk comme Crosby, Stills & Nash, Led Zeppelin, Bob Dylan, Johnny Mitchell. Et il va intégrer tout ça dans un nouveau style. Génie musical, Prince pouvait jouer par oreille de nombreux instruments, le piano, la guitare, la batterie. Il aimait imiter des musiciens comme Carlos Santana. Le collage musical sera apparent. Son premier album, For You, reflète le nouveau son de Minneapolis avec des paroles sexuellement provocatrices qui seront une autre marque de fabrique de Prince.
But they always say
Prince, son premier album, I Wanna Be Your Lover. Ce son de Minneapolis va inspirer des musiciens comme Michel Portal. En 2000, le clarinettiste et compositeur y enregistre tout un album avec les musiciens de la ville, notamment deux mastodontes noirs américains hilars, le batteur Michael Bland et le bassiste Sonny Thompson. Michel Portal écrit sur la pochette de son album « Minneapolis allie le mot Dakota « miné » qui signifie « eau » avec le mot grec « polis »« ville ». L'eau est l'élément essentiel de Minneapolis et de sa sœur jumelle Saint-Paul avec 18 des 12 034 lacs du Minnesota. Le morceau qu'on entend porte le nom de l'une des principales artères de Minneapolis, une rue commerçante, artistique où l'on trouve des clubs de jazz et juste à côté de la salle de concert de l'orchestre du Minnesota. Bienvenue sur Nicolette Avenue. We'll be right back. Nicolette Avenue dans l'album Minneapolis We Insist de Michel Portal, enregistré en live. Minneapolis est à la fois une porte d'entrée vers le Midwest américain, ces grands espaces agricoles où champs de maïs et de blé sont alignés sur des dizaines, des centaines de kilomètres, mais aussi le lieu de naissance d'un son aujourd'hui. Demain, eh bien, on longe le Mississippi direction le sud, une ville qui a aussi inventé un son unique, Memphis. Elvis et le rock'n'roll. Merci à Clara Nouvelle qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci à Alice Escriou pour le site, à Dofar Guérid au mixage et à Céline Parfenov pour la réalisation. Vous pouvez podcaster cet épisode et toute la série sur l'application Radio France et sur les plateformes de musique en ligne. Quant à la programmation musicale, vous la retrouverez sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.